Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Bien, monsieur, elle s'en retourne. Les domestiques sont surpris, mais se disent qu'ils ne peuvent pas s'occuper des disputes de leur maître. Après son petit déjeuner, la bonne lui donne le plateau et il va monter à sa femme le petit déjeuner. Il se dit qu'il faut absolument qu'elle reste dans sa chambre, autrement j'en ai perdu. Mais elle risque de crier et de demander de l'aide aux domestiques. Il va dans sa chambre. Un médicament à base de coquelicot qui fait dormir, qu'il achetait ça pour soulager du mal de tête. Il en met une bonne dose dans le café. L'odeur n'est pas très forte. Et comme c'est du café, et qu'elle le prend sur sucré, il ouvre la porte de la chambre de sa femme. Elle est debout. En chemise de nuit, furieuse, lui demande « Pourquoi m'as-tu enfermé ?»« Mais c'est par sécurité. Tu étais tellement énervé. » Elle lui dit « C'est plutôt toi. Pour ta sécurité, toi. » Il lui dit « Calme-toi. Tu as passé une bonne nuit. Maintenant, tu vas prendre ton petit déjeuner au lit. Comme une gentille. Femme aimante et calme. Hein ? Elle lui dit, tu me prends pour un imbécile ? Je ne suis pas du tout calme. Je déteste. Et je veux sortir d'ici pour aller à la police. Elle lui dit, tu feras ce que je voudrais. Mais avant, il faut te reposer. J'ai pas faim. Il lui dit, sois raisonnable, tu peux pas aller à la police le ventre vide, c'est à 10 kilomètres. Allez, arrête et viens manger. Rallonge-toi. Tu vois, je ne suis pas un monstre. Allez, rallonge-toi et mange. Et se remet au lit. Il lui met le plateau. Sur le lit, elle lui dit, la disparition de ton cousin t'est perturbée. Et tu t'es imaginé des choses qui ne sont pas. Tu vois, Jean, tu es ton cousin et moi caché le corps. Tu nous vois tous les deux avec le cadavre, c'est ridicule. Oublie la bourse et tout. Dis, ce ne sont pas de vraies preuves. Et puis tant qu'il n'y a pas eu de cadavre, il n'y a pas de criminel. Et puis, ton cousin est peut-être avec une maîtresse, heureux, dans ses bras, il ne pense pas qu'on le recherche. Et puis il est bien libre de faire ce qui lui plaît. Pourquoi t'inquiètes-tu de lui? Tu ne le fréquentes même pas. Tu ne sais rien de lui. Et tu t'imagines des tas de choses sur sa vie. Est-ce que tu connais ses amis? Est-ce que tu connais ses préoccupations, ses projets? Non. Alors comment peux-tu savoir ce qui lui est arrivé? Alors, tu ne connais même pas, tu ne sais rien de lui, juste ce que sa mère a dit à la police. c'est pas grand-chose. Toutes ces choses sont le fruit de ton imagination. Repose-toi. Ne pense plus à ça. Et dans quelque temps, tout ira bien. Prends son petit déjeuner et bois son café. Qu'elle trouve bizarre, mais se dit que ce doit être dû à son foie barbouillé à cause de l'émotion. Il dit, peut-être, mais toutes ces choses étranges. Et puis, tout me ramène à John. Il lui dit, parce que tu connais John, et toi, tu dois être un peu jalouse d'elle à cause de moi. Tu ne comprends pas que nous sommes liés. Bien sûr, tu es fille unique, mais si tu avais eu un frère ou une sœur, tu comprendrais. Elle lui dit, tu n'es pas tout à fait son frère. Non, mais nous avons été élevés comme frères et sœurs, et c'est l'essentiel. Elle lui dit, bon, il lui dit, bien, repose-toi, réfléchis avant de faire quelque chose. Je te laisse libre d'agir comme tu le veux et de dire ce que tu veux. C'est la seule façon que j'ai pour le moment de te prouver mon amour pour toi. Et c'est la seule façon que tu comprennes. Mais dis-toi bien que j'en souffre beaucoup. Allez, je te laisse te reposer. Et pense tranquillement. Sors de la pièce. Ferme la clé et mets la clé dans sa poche. Elle pose le plateau sur le plancher. Soupire et se dit qu'elle aimerait bien que ce soit vrai, mais il y a trop de preuves tangibles. Elle se dit qu'elle doit tout de même, avant de faire quelque chose, c'est de repenser à tout ça. Mais elle a des difficultés à se concentrer. Puis, se sent un peu lasse. Et comme elle est au lit, il lui suffit de s'étendre. Et petit à petit, de se trouver dans une drôle de torpeur. Oui, comme elle est au lit, il suffit de s'étendre et petit à petit d'avoir une drôle de torpeur. Joli petit coquelicot, joli petit coquelicot. Luc au salon se dit qu'il ne peut pas la séquestrer comme ça. Les domestiques risquent de trouver ça louche. Il faut qu'elle soit malade. Qu'elle voie un médecin et que le médecin dise qu'elle doit rester enfermée à cause de ses crises nerveuses. Il doit appeler un médecin qui ferait ce qu'il lui demande. Et il faut chercher un nom. Quel médecin ? Il pense à un médecin qui a mauvaise réputation, alcoolique, et qui, paraît-il, a eu des affaires louches et ne travaille plus. Peut-être fera-t-il l'affaire, mais si on lui demande pourquoi il l'a choisi, il dira qu'il ne connaissait aucun médecin et que c'était le seul qui pouvait se déplacer de suite. Il sait que le médecin invite un petit bourg, décide d'aller le voir et de lui parler de la chose. Avant de partir, il dit au domestique, ma femme se repose, il ne faut pas la déranger, je vais chercher un médecin. Bien, monsieur. Et il prend son cheval. Arrivé au bourg, il demande où se trouve ce médecin. Personne ne lui répond. Seule une femme, une vieille paysanne, lui indique la maison, mais lui dit, il n'exerce plus. Merci. La maison n'est pas très grande. Elle est en bordure de route. Deux étages sans style, volets verts. Il va à la porte d'entrée en bois, vert peint en vert aussi. Il y a bien une plaque en cuivre marquée dessus docteur. Docteur. L'épicier Jean Raviliste, ou un nom comme ça, c'est un peu effacé. Sonne à la porte. Au bout d'un moment, elle s'ouvre. C'est une vieille femme, grande, maigre, cheveux blancs, en chignon, robe noire. Elle demande, c'est pourquoi ? Il lui dit, c'est pour voir le médecin. Vous avez rendez-vous? Non. Il fait, bien, entrez. Je veux voir si mon fils peut vous recevoir. Il entre. Ça sent l'éther et le foin. Petit hall d'entrée avec une fenêtre qui donne à un jardin. Escalier de bois ciré, une porte. Le sol, c'est des carreaux rouges. Elle ouvre la porte. Entrez, il entre. C'est un salon campagnard, du Philippe, avec une table basse et des chaises. Il y a une petite fenêtre qui donne au jardin, une cheminée avec une pendule, un fauteuil. Elle dit, asseyez-vous, je vais voir si mon fils peut vous recevoir. Vous appelez comment ? Lucterman, elle fait, je connais pas. C'est pour une dette de jeu? Non, un malade. Elle fait surprise. Tiens. Et elle le quitte. La vieille monte à l'étage. Premier, elle suit un petit couloir avec des portes. Papa, une porte. Entrez. est là. C'est une chambre qui est dans la pénombre. Les volets sont fermés. Un homme est allongé, tout habillé sur son lit. La chemise est défaite. La chambre sent l'éther et le renfermé. Elle est en désordre, des vêtements, des livres, des bouteilles de vin qui traînent à terre sur la table de nuit et le secrétaire. La chaise est pleine de vêtements en vrac. L'armoire a deux portes. Les portes sont ouvertes. Elle s'approche du lit et lui dit « T'as un client !» L'homme semble grand, maigre, cheveux et barbe blanche, yeux bleus. Il y a des difficultés à respirer. Il se soulève et dit « Un client ?» Elle lui fait « Oui, tu veux le voir ?» Il lui dit « Il le faut bien. » Prends sur la table de nuit une bouteille et un verre. Remplis le verre. Il boit pour se donner du courage. Puis, se lève. Ça lui a donné des forces. Il a le vertige, soupire. Le verre part avant. Il y a une table qui fait table de toilette. Il y mousse sa serviette avec de l'eau qui a servi et qui est restée là depuis des jours. Il se mouille le visage. Il se prend de l'autre colonne et s'en met sur les cheveux et le visage. La bouche et les vêtements. Il va prendre sur la chaise ses vêtements et sa veste. Souffle, aide-moi avec mon nœud de cravate. Elle l'aide. Une fois qu'elle est prête, il lui dit allons-y. Luc trouve le temps long. Il se demande ce qui se passe. Enfin, la porte s'ouvre en face de celle où il est rentré. Il voit apparaître le médecin. Il le trouve bien distingué, faisant sérieux. Se lève. Le médecin va à lui et lui dit « Vous avez demandé à me voir. Me voici, monsieur. »
« Bonjour, monsieur. C'est au sujet de ma femme qui a des ennuis de santé.
Venez dans mon bureau. »
Le bureau est une grande pièce, avec table du bureau, un secrétaire, grande porte-fenêtre qui donne sur le jardin. La pièce est claire, nette. Il y a une cheminée. Le médecin s'assoit à son bureau. Luc en face du bureau.
Le médecin lui dit « Je vous écoute, monsieur. »
Bien voilà, ma femme est très fragile des nerfs. Elle a eu un choc
la disparition de son cousin. Elle a des crises de nerfs terribles. Menace d'aller à la police pour dire n'importe quoi. J'ai eu l'idée, c'est de vous... C'est que vous pouviez m'aider. Il faut qu'elle se repose et reste enfermée dans sa chambre pour éviter qu'elle ne fasse des bêtises. Il faudrait peut-être lui donner des médicaments. Le médecin se dit, il cherche à séquestrer sa femme et veut mon aide pour que la chose se passe légalement. Le médecin lui dit, c'est-à-dire qu'il faut voir la malade, voir si elle a besoin de soins intenses. On ne peut pas donner des médicaments comme ça. Et enfermer une personne comme ça, elle aura peut-être besoin d'une garde malade. Je ne sais pas. Il faut que je voie. Est-il possible que je voie, que je puisse la voir, pour que je voie la drogue qui lui convienne le mieux? Le cul dit, oui, bien sûr, elle en a besoin, et puis vos honoraires seront très intéressants. Victor lui dit, je vous remercie, je veux bien essayer de m'occuper de cette personne. Quand pourrais-je la voir? Si vous voulez tout de suite, je suis venu à cheval et je vous en avais un. Oui, bien sûr. Je me prépare. Et nous allons où déjà? Vous habitez où? Luc lui dit, au domaine de Chantelaire. Le médecin se dit, attention, c'est de la haute. Il est possible que je ne veuille pas la droguer si elle n'en a pas besoin, bien sûr. Luc lui dit, mais elle en a besoin, je vous assure, monsieur. Nous verrons, nous allons y aller, voir. Et une demi-heure plus tard, ils sont en route. Luc se sent coupable de faire ça, mais il ne peut faire autrement. Lorsqu'ils arrivent au château, ils demandent au domestique, « Madame va bien ?» Le domestique lui dit, « On n'entend aucun bruit dans la chambre, monsieur. Bien, veuillez me suivre, monsieur. » Le médecin, avec sa mallette et sa barbe et moustache blanche et ses cheveux blancs, fait très sérieux et distingué. Luc frappe à la porte de sa femme. Pas de réponse. Il prend la clé dans sa poche et dit au médecin, « C'est par sécurité. » Le médecin lui dit, « Je vous comprends. » Ils entrent dans la chambre, s'approchent du lit. Elle dort. Luc se penche, la touche du bras, et lui dit, Claire, ma chérie, j'ai amené le médecin. Ma chérie, réveille-toi. Se réveille, le médecin, mais je ne suis pas malade. Luc lui dit, mais si, tu as eu une crise de nerfs. Elle lui fait, je n'ai eu aucune crise de nerfs. Elle se soulève et fait le geste de se lever. Luc lui dit, rallonge-toi, tu es trop faible. Et il est vrai qu'elle se sent faible à cause du coquelicot. Elle dit furieuse, mais je ne suis absolument pas malade. Le médecin lui dit, c'est à moi vous le dire, madame. Elle lui demande, qui êtes-vous?
Je suis le docteur, l'épicier.
Je ne veux pas, je veux mon médecin, le brave docteur Morel.
Luc lui dit,
il ne peut venir, et comme il y a urgence, j'ai fait venir ce bon docteur.
Elle lui demande, l'urgence, et pourquoi?
Je n'ai rien. Je veux me lever et sortir.
Elle sort du lit. Mais elle le vertige et manque de tomber à terre. Le médecin la rattrape et la recouche.
Il demande à Luc, qu'a-t-elle pris?
Luc lui dit, rien de bien méchant, du coquelicot.
Mais elle a eu un choc nerveux.
Le médecin lui dit, vous avez raison.
Elle dit, je dois sortir.
Il lui demande, pour aller où?
Elle lui dit, à la police.
Luc dit au médecin, vous voyez, il y a urgence.
Et il faut la protéger.
Le médecin lui dit, oui, je le vois. Je vois. Très bien. Ça continue. Ces chimères. Et dit, elle est très énervée. Et à une fixation, il faut la détendre un peu. Un peu d'opium, du bouillon, pas de viande. Juste des légumes. Juste des légumes, compris. La coucher dans la pénombre et le silence. Je pourrais me procurer le médicament. J'en ai un stock. Pour qu'elle accepte l'opium, il va falloir la calmer. Continuez votre médicament à base de pavot. Augmentez la dose. Et enfermez-la bien.
Elle lui dit, mais je ne suis pas malade.
Le médecin lui dit, c'est moi qui suis médecin, madame.
Il ouvre sa mallette. Et en sort des choses pour faire une piqûre. Il dit à Luc, maintenez. Est trop faible pour résister, elle se laisse piquer. Puis, ils sortent de la chambre. Luc attrape bien la clé et met la clé dans sa poche. Le médecin lui dit,
comprenez, c'est que je fais ça pour vous faire plaisir.
Luc lui dit, vous bien sûr, vous voulez m'aider. Venez dans mon bureau. Entrez.
Tout d'abord,
il lui donne une bonne somme.
Merci. Il faudrait bien, ce serait bien
c'est que vous ayez une infirmière qui serait à votre service. Je connais une personne qui ferait très bien l'affaire. Vous pouvez être tranquille, cette femme, officiellement, peut rester enfermée dans sa chambre. Si vous le voulez, elle est malade, très malade. Merci, docteur. Luc se sent honteux et coupable de ce qu'il a fait. C'est comme s'il tuait Claire. Il se dit, Sean, oh Sean, et décide d'aller voir Sean. Elle le reçoit dans son salon. Il lui dit, Claire sait la vérité, elle est furieuse, elle fait une scène terrible. Elle veut nous dénoncer à la police. Je lui demande, que sait-elle? Il lui dit, tout, elle a tout compris. Et ceci à cause de tes bourses. Elle lui dit, je sais, j'étais stupide de lui donner mes bourses. Qu'allons-nous faire? Il lui dit agacé, comme d'habitude, j'ai tout fait pour arranger les choses. Je l'ai enfermé dans sa chambre et fait prendre un médicament. Venir au médecin très compréhensif, qui avec un peu d'argent est capable de rendre tous les soucis que l'on veut finis. Il va la droguer pour éviter qu'elle ne fasse des bêtises. Jean lui dit, tant mieux. Nous sommes sauvés. Il lui dit, oui, mais Claire perdue. Pauvre Claire, tout ça par ta faute. Elle veut souffrir. Un enfer. Elle ne le mérite pas. Elle lui dit, l'essentiel, c'est que nous soyons sauvés. Tout s'arrange pour nous deux. Il la regarde dégoûté. Et la gifle. Elle lui demande, pourquoi? Tu n'es qu'une sale égoïste. Le monde peut s'effondrer. Ça n'a pas d'importance pour toi. Ce qui compte, c'est toi, c'est nous. Claire va payer à ta place le crime que tu as fait. Et lui dit, alors, qui puis-je? Il lui dit, il ne fallait pas avoir d'amant et le tuer. Claire est innocente, elle n'a rien fait de mal. Tu n'as pas à te réjouir de ce qui lui arrive par ta faute. Son emploi lui dit furieuse. On dirait que tu préfères Claire à moi. Que m'importe ta Claire? Moi, ce qui compte, c'est nous. Elle peut bien mourir, je m'en moque. Il l'a giflé et lui dit, tu penses que moi, oui, parce que autrement, tu ne l'aurais pas fait. Il lui crie, non, je l'ai fait en pensant à toi et à nous. Mais c'est toi qui as tué, pas moi. Il la prend dans ses bras, la secoue, lui crie. Quand est-ce que tu vas comprendre que ton égoïsme est terrible? Il la tient par les cheveux en arrière pour lui lever la tête et l'embrasser sur les lèvres. Et lui dit, tu n'es qu'un monstre, un monstre.
En courant,
elle se met à taper des pieds et à crier de rage. C'est lui qui est un monstre. C'est lui qui est un monstre. Il n'avait qu'à pas me laisser tomber. J'aurais pas pris d'amant. Oh, je déteste. Se retourne. Il voit sur la commode un vase. Il le prend et le jette. La porte s'est ouverte. C'est le domestique. Elle lui crie, oui, qu'est-ce que c'est? Le domestique lui dit, madame, votre mari vient d'arriver. Elle lui dit, ah oui, encore lui. Bien, il entre. Le domestique se retire. Elle a soupiré, frappa à la porte. Entrez ! Entre son mari. Il voit le verre brisé et sa femme dans tous ses états. Il demande, que se passe-t-il ? Elle lui dit, rien ! Il lui dit, j'ai croisé Luc. Lui aussi semblait tout excité. Il m'a dit qu'il fallait que j'aille te voir, que tu n'étais pas bien. Il s'approche d'elle. Elle lui dit, pourquoi veux-tu que j'aille bien? Il lui dit, maintenant ça ira mieux. Je suis là. Il la prend dans ses bras. Il veut l'embrasser et se dégage. Il lui demande, qu'as-tu? Rien. Et elle se dit, si je pouvais lui aussi l'enfermer dans sa chambre. Mais il ne sera jamais malade, lui. Luc, au moins, il a de la chance. Il a réussi à se débarrasser de sa femme. Henri lui dit, dis-moi ce qui ne va pas. Elle lui fait, ah, tu vas pas recommencer. J'ai mal à la tête. Là, voilà, je suis fatigué. Et puis cet orage. Oh, cet orage horrible. Il lui dit, je sais, allez, viens, on va faire un petit câlin. En prenant ses bras, et soupire. Tu ne penses jamais qu'à ça? Bon, allez, on y va. Mais après, tu me laisses en paix, viens. Et elle le mène à sa chambre. Un matin, le médecin va voir Luc avec une femme grande, forte, aux cheveux noirs, l'air mauvaise. Elle est habillée d'une capeline noire et dessous d'une blouse blanche. Elle porte une valise à la main. Luc les reçoit au salon. Le médecin lui dit, je vous présente Mademoiselle Terrier, infirmière, qui s'occupera de votre femme. Je lui ai expliqué notre problème. Elle a parfaitement compris la situation. Elle s'est déjà occupée de nombreux cas de cette sorte, et ça s'est très bien passé. Elle dit, en 6 mois, la chose est faite. Je sais m'y prendre, c'est du rapide. Luc lui dit, je ne comprends pas. Le médecin lui dit, ne vous occupez de rien et faites celui qui ne comprend pas, c'est mieux pour nous trois. Luc se dit, ils sont terribles. Il lui dit, vous n'allez pas vous rétracter, ce serait gênant. Vu que nous connaissons votre problème, Luc se dit, si je refuse leur service, ils vont me faire chanter et me dénoncer. Je suis coincé. Non, pas du tout. Mais surpris, rien de plus. J'aimerais c'est que ma femme soit bien traitée. Je ne dis rien d'autre. Le médecin lui dit, bien sûr. Et comment va-t-elle? Luc lui dit, elle va bien. L'infirmière lui dit, j'aimerais aller la voir. Il me faut aussi une chambre communicante à la sienne. L'entière liberté. Et je ne veux aucun rapport avec les domestiques. Luc lui dit, très bien. Elle lui demande, mon salaire est de combien? Il lui donne une bonne somme. Luc se sent obligé de dire oui et de donner un bon salaire. Le médecin lui dit, je viendrai voir la patiente une fois par semaine pour apporter l'opium et plus tard nous remplacerons par de la morphine. Le tarif avec les médicaments est de... Luc lui dit, très bien. L'infirmière lui dit, bon, allons voir la malade.
Il monte à l'étage. Luc frappe à la porte. Pas de réponse, il ouvre avec la clé. L'infirmière lui dit, il faudra moi aussi une clé. Oui, bien sûr. La pièce est dans la pénombre. Il y a une odeur infecte de médicaments. Il s'approche du lit.
Luc dit, Claire, je suis venu avec le médecin et l'infirmière qui va s'occuper de vous. Claire ouvre les yeux, mais ne peut pas parler. L'infirmière lui dit, nous allons très bien nous entendre. Je m'appelle Mademoiselle Terrier. J'ai été infirmière chef des hôpices civils de Lyon. Section salle de l'asile de Vieux. J'ai été médaillée de la ville de Lyon et des hospices pour la bonne tenue de mon service. Les lits sont vidés régulièrement et vite. Je sais ce qu'il vous faut, du calme, du sommeil. Oui, après, tout ira bien, vous prendrez des forces. Elle demande à Luc. Montrez-moi ma chambre.
Il lui ouvre une porte communicante. C'est une belle chambre, Lucas.
Ça va très bien. Je vais le mettre en place et commence de suite. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.